Vous allez trouver des feuilles. On survole deux leçons ce matin, d'accord? Ça va vraiment être un survol, là. Comme j'ai mentionné, j'arrive pas vraiment à couvrir toute la matière des 2000 ans d'histoire de l'Église en 12 leçons. Donc, on va survoler deux leçons. On couvre le 18e et le 19e siècle. Puis je vais mettre l'accent seulement sur certaines parties de l'histoire de l'Église dans ces deux siècles-là. Je voulais vous mentionner quelque chose aussi, juste vous offrir des opportunités d'aller un petit peu plus loin dans vos lectures. Les livres que j'ai ici, c'est des livres que vous pourriez vous procurer, mais aussi c'est des livres que vous pourriez m'emprunter. D'accord? Alors, ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas les moyens de dépenser. Une copie signée par Jules Marcel Nicole. Ça, c'est le précis d'Histoire de l'Église dont je parle depuis le début, mais je peux la prêter. C'est ma copie personnelle. En fait, c'est une copie que Jules Marcel Nicole a dédicacée à mon père qui ne marche pas avec le Seigneur. D'accord? Il faudrait qu'elle me revienne absolument, ça c'est sûr. Mais si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai mentionné, le précis d'Histoire de l'Église, il y a beaucoup de citations des sources premières. Ça veut dire s'il va parler d'un père de l'Église, il va aller citer des lettres, des extraits, de brefs extraits. Mais ça, c'est toujours intéressant d'aller lire un petit peu pour sentir qu'on entre en contact avec les personnages eux-mêmes qu'on rencontre. Alors ça, c'est en français. C'est tout ce que j'ai en français à vous suggérer, mais celui-là est disponible encore, vous pouvez l'acheter. Celui-ci, c'est pas mal le classique actuellement dans les séminaires pour l'introduction à l'histoire de l'Église. C'est en anglais et je pourrais vous le prêter aussi, « The History of Christianity ». Il y a un DVD qui accompagne ça. J'en ai deux autres sur l'ensemble de l'histoire de l'Église. Alors, un qui a été longtemps le classique, c'est « La Tourette, Christianity through the Ages ». C'est en anglais aussi, je peux vous prêter ça. Et puis, de Cairn, qui a été beaucoup utilisé, là, qui ne s'est pas imposé autant, mais « Christianity Through the Centuries » de Earl Cairn. Donc, j'ai quatre livres de survol d'histoire de l'Église. Et puis, j'ai pensé à deux choses qui pourraient peut-être plus intéresser d'autres personnes. Ça ici, c'est une histoire de la mission chrétienne à travers les anges. Donc, on traverse l'histoire de l'Église, mais en se concentrant sur les efforts missionnaires. C'est en anglais aussi. Et puis, celui-ci, c'est une biographie de William Carey. Je vais parler très brièvement ce matin de William Carey. William Carey était un pasteur baptiste. Ça a été le père de la mission moderne. D'accord? Premier missionnaire à partir comme ça, seul en Inde, tout ça. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment édifiant. C'est pas une histoire facile. Ça a été une vie très, très difficile. Les premiers missionnaires ont fait des sacrifices extraordinaires de leur famille. J'en parlais tout à l'heure. Mais c'est très édifiant. Alors ça, c'est une biographie. Des fois, il y en a qui accrochent plus sur les biographies. Alors, vous pourrez... ce que je vais faire, là, si j'ai votre attention, je les laisse ici. Moi, après le cours, je disparais. Si vous prenez un livre, il y a une fiche derrière. Vous marquez votre nom, la date, puis vous déposez la fiche à côté. D'accord? Et puis, je saurai qui a mon livre. C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce temps ce matin en Église. Seigneur, si nous sommes assemblés, c'est à cause de ton nom, à cause du nom de Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés, parce que nous sommes ici, Seigneur, pour t'adorer, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui prend soin de nous, qui nous parle par sa parole. Père, si cette Église s'assemble pour te célébrer, c'est à cause de toi, à cause de ton nom. Et je veux donc te demander, Père, de venir nous rencontrer ce matin. Dans cette matinée qui va être passée en Église, je te prie de venir nous rencontrer, de venir nous édifier par l'histoire de l'Église. Mais, Père, viens nous toucher à travers des rencontres, des discussions. Viens diriger, Seigneur, les échanges entre les frères et sœurs par ton esprit. Viens diriger tout à l'heure pour la louange, pour la prédication de la parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. On a besoin de sentir ton œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître que tu es Dieu et que tu es merveilleux. Alors, je te demande de bénir maintenant cette leçon, cette dernière leçon sur l'histoire de l'Église. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on couvre le 18e et le 19e siècle, en gros, et je vais m'attarder sur certains aspects de l'histoire de l'Église seulement. Je peux évidemment pas couvrir deux siècles en vous présentant l'histoire de l'Église sur deux siècles, d'accord? Alors, dans la première partie, on va parler de deux éléments. Pour le 17e siècle, essentiellement, 18e siècle, on va parler essentiellement de ce qui se passe dans le monde, en général, en Europe, en Occident, et qui devient des défis. Les pensées évoluent. Il y a des changements sociaux profonds. On pense à la Révolution française, on pense à la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Ces choses-là vont avoir un impact sur l'Église. D'accord? Et il y a des courants philosophiques qui sous-tendent ces mouvements-là. Et ces courants philosophiques-là vont entrer en collision avec l'Église. Et donc, on va parler de ça. On va parler de la second grand réveil qui se sont passés en majorité aux États-Unis, mais ça a été une période qui a eu un impact énorme sur le mouvement évangélique, sur les États-Unis principalement, mais sur tout le mouvement évangélique. Et c'est de là que va sortir éventuellement le grand mouvement missionnaire. C'est la dernière partie dont on va parler ce matin, le mouvement missionnaire mondial qui a vraiment décollé au 19e siècle, au début des années 1800. D'accord? Alors, si vous êtes dans vos feuilles de notes, il y a des grandes sections que je saute. Si vous regardez l'histoire de l'Église aux États-Unis, je saute ça complètement. Dans la deuxième feuille de notes, je vais sauter toute l'histoire des baptistes. Je suis désolé. La dernière fois, j'avais eu le temps de voir ça, là, mais je n'ai pas le temps de le voir cette fois-ci. Mais, comme je vous dis, il y a des bonnes lectures que vous pouvez faire complémentaires pour aller un petit peu plus loin. Dans Colossiens 2, 8 et 9, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste nous lire cette citation-là? Je m'excuse, je l'ai juste en anglais ici. Quelqu'un qui veut nous le lire. Colossiens 2, 8 et 9. Un passage qu'on connaît bien. Première personne qui l'a, juste me lire bien fort. D'accord, merci. Alors, jusqu'à ce qu'on arrive à la période de la Révolution française, on peut dire que pour l'Occident, le christianisme a été le paradigme, c'est peut-être pas un mot avec lequel vous êtes familier, le paradigme ou la vision du monde, la vision que les gens avaient du monde en général, était formée par une vision chrétienne du monde. C'est pas tout le monde qui était chrétien, mais un Dieu existe, c'est lui qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui s'est révélé. Il s'est révélé de manière excellente, de manière parfaite à travers son Fils. L'homme est fondamentalement pécheur. Il naît pécheur et doit trouver un moyen d'être racheté de ses péchés. Donc, on parle de rédemption. Il y a une lutte entre le mal et le bien. Et chaque homme doit choisir d'aller vers le bien. D'accord? Alors, toutes ces choses-là, c'était la vision du monde en Occident. Avec la Révolution française, les choses vont changer drastiquement et vont avoir un impact. Probablement que la Révolution française est l'élément qui a eu l'impact le plus déterminant, d'accord, pour venir bousculer ces choses-là, même si c'était le fruit d'un courant philosophique profond. Et à travers cette période-là du 18e et du 19e siècle, on va voir deux choses se produire. Dans le monde en général, puis vous allez reconnaître notre époque. Vous allez reconnaître que ça a conduit à notre époque. Avant cette période-là, comme je le dis, tout le monde ou à peu près tout le monde en Occident se serait défini comme des chrétiens. Ceux qui ne l'étaient pas étaient marginaux. D'accord? Maintenant, avec le 18e, le 19e siècle, les choses vont changer drastiquement. Et donc, avec un pays comme la France qui va décider de rejeter de manière majoritaire et très violemment le catholicisme et par le fait même le christianisme, d'accord? Les choses vont changer à ce moment-là et l'Église va redevenir, si on peut dire, un peu comme elle était à son origine. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on découvre une Église qui est perçue au départ comme une secte juive. Lorsque vous lisez le livre des Actes, vous lisez les Épîtres, on voit très bien que pour les autorités romaines, les chrétiens, c'était des Juifs, mais comme une branche spéciale des Juifs. Ils percevaient ça comme ça. Et donc, pendant longtemps, on parle jusqu'au 3e siècle, fin du 3e siècle, début du 4e siècle, avant que l'Église commence à devenir, que le christianisme devienne vraiment populaire. Et que ça devienne non seulement une religion tolérée, une foi tolérée, mais en plus de ça, ça devient comme important de croire comme les chrétiens. Et on a parlé de tout ce que ça va amener comme dérive. Par contre, il y a des avantages avec ça, évidemment. C'est que si tu veux parler de Christ, mais tu parles de Christ, ça finit là. Parce que tout le monde est dans ce paradigme-là, dans cette vision du monde-là. Avec le 18e et le 19e siècle, les choses vont changer. Et l'Église va redevenir, dans un sens, underground. Elle va redevenir marginale. Et le christianisme est de moins en moins en vogue comme vision du monde. Et tranquillement, on voit l'émergence de pensées plutôt athéistes ou déistes. Le déiste va dire, ouais, OK, il y a probablement un Dieu qui est derrière tout ça, mais je ne saurais pas dire beaucoup plus que ça. Ça ressemble à l'agnosticisme. Et donc, ça, les choses vont changer profondément. Mais en même temps, et c'est ça qui est important, en même temps, les églises où les gens comprennent l'Évangile, les églises où les gens proclament l'Évangile vont se multiplier par milliers. Et l'effort missionnaire va découler de ça. Et donc, on arrive un peu dans l'état actuel du monde où vous avez d'un côté sur la place publique, lorsque vous lisez les journaux, vous avez l'impression que le christianisme est en recul, d'accord? Et sur la place publique, il est en recul. Parce que c'est plus à la mode de se réclamer de la foi chrétienne. D'accord? Au contraire, tu passes pour un arriéré souvent si tu te réclames de cette foi-là. Mais en même temps, en réalité, les églises évangéliques se multiplient comme jamais dans l'histoire. Les chrétiens se multiplient comme jamais dans l'histoire. Et à travers le 18e, le 19e, le 20e siècle, le mouvement missionnaire mondial va prendre de l'expansion à une vitesse incroyable. Et donc, il y a des régions de la Terre qui n'avaient pas été atteintes aussi profondément avec l'Évangile. C'était des petites percées. Même Calvin avait envoyé des missionnaires jusqu'au Brésil, on a dit. Mais c'était de très petites percées. C'était des petits îlots, là. D'accord? Mais avec le 19e et le 20e siècle, le mouvement missionnaire va prendre un élan énorme et va atteindre beaucoup plus de régions sur la Terre. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais c'est simplement pour donner cette image-là qu'il y a deux facettes. Sur la place publique, tu as l'impression que le christianisme recule. Est-ce que c'est vraiment un mal? Je ne suis pas certain que c'est tant que ça un mal, parce qu'en définitive, lorsqu'on va se présenter devant Christ, c'est seulement ceux qui ont cru et qui ont suivi Christ, hein, qui vont entrer dans la présence du Père. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui vont entrer dans la présence du Père. Et donc, des millions et des millions de chrétiens nominaux, ça ne sert pas à grand-chose, sinon probablement à ternir le nom de Christ, parce que ce n'est pas eux qui vont avoir le meilleur témoignage pour le nom de Jésus-Christ. Mais dans notre perception à nous de ce qui se passe dans le monde, ça rend notre vie moins facile parce que c'est moins à la mode de se déclarer chrétien. Et ça va se développer progressivement au 18e, 19e, 20e siècle. D'accord? Puis en même temps, il y a des percées extraordinaires pour l'Évangile dans plusieurs pays d'Occident et il y a des percées extraordinaires pour la mission. D'accord? Un peu partout dans le monde. Alors ça, c'était simplement pour donner une image d'ensemble. Alors simplement, placer quelques événements importants. 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis. 1789, qu'est-ce qui se passe en 1789? La Révolution française. Alors, écoutez, c'est proche, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se brasser dans le monde à travers cette période-là. La déclaration d'indépendance des États-Unis... À cette époque-là, c'est pas que ça a un impact direct sur l'Église, mais simplement pour vous donner un peu l'état des choses. À cette époque-là, les réveils qu'on a connus plus tôt, on a parlé des années 1740, 1750, on a parlé de réveils qui avaient eu lieu spécialement en Nouvelle-Angleterre, mais qui s'étaient répandus dans plusieurs des colonies. Ces réveils-là ont ralenti dans leur impact. Et lorsqu'on arrive à la déclaration d'indépendance des États-Unis, les États-Unis ne sont pas très, très chrétiennes, si je pourrais dire, le taux de participation. Maintenant, ça va vous faire rire un petit peu, là, parce qu'on n'est pas au Québec, d'accord? En 1790, il y a 5 à 10 % des Américains qui sont membres d'une église et l'assistance le dimanche matin dans les églises tourne autour de 40 %. D'accord? On n'est pas au Québec, c'est bon? 40 % pour nous, ce serait absolument extraordinaire. Mais pour eux, c'est vraiment un recul énorme. Parce qu'à la fondation, au départ, c'était beaucoup plus élevé que ça. Donc, l'Église aux États-Unis C'est plus ou moins, c'est pas très, tellement fervent. C'est pour ça, tout à l'heure, on va parler du deuxième grand réveil. Mais en même temps, ce qui se produit en 1789, la Révolution française a lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment les penseurs de la Révolution française vont rebaptiser l'église, la cathédrale Notre-Dame de Paris? Quelqu'un qui sait ça? Pardon? Le temple de la raison, exactement. Et ça, c'est important, ça nous donne une image de ce qui est en train de se passer en France avec la Révolution française. La cathédrale Notre-Dame de Paris est rebaptisée en 93, si je ne me trompe pas, oui. 1793, elle est rebaptisée le temple de la raison. Et on cache complètement tout ce qui est statues à l'intérieur, tous les symboles chrétiens à l'intérieur. On construit en papier mâché une espèce d'hôtel avec des mythologies, avec des éléments qui nous rappellent la philosophie grecque, je m'excuse. Et donc, on élève la raison. Et ce qui va se passer avec la Révolution française, c'est que la France va décider de mettre de côté ceux qui font la promotion de la Révolution française, les penseurs, les politiciens, vont rejeter fondamentalement le christianisme. D'accord? Et ce à quoi on assiste là, c'est l'aboutissement du mouvement des Lumières, où on pense qu'avec la raison humaine est ce qui est au-dessus de toute chose. D'accord? Tout à l'heure, je vais rentrer un petit peu plus dans les explications de ça. Oui. Merci, Armand. Alors, on appelle cette période-là l'âge de la raison. Les philosophes des Lumières, pendant environ une centaine d'années précédant ça, ont cherché à élever la raison humaine au-dessus de la révélation divine. D'accord? C'est vraiment deux visions du monde extrêmement différentes, même, je dirais, opposées. Le christianisme a comme approche de dire l'être humain est limité dans ce qu'il peut comprendre, de ce qu'il peut saisir, et donc il y a beaucoup de mystères à respecter. Ça, c'est la vision chrétienne du monde. Dans leur cas, cette vision-là était erronée, voire insultante, parce qu'elle semblait dire que l'être humain n'avait pas le droit de pousser son intelligence au maximum pour pouvoir saisir l'univers dans lequel il vit, le monde dans lequel il vit. Le christianisme n'a jamais dit ça. C'est comme ça qu'eux autres le voyaient, parce qu'eux autres se disaient « Non, il n'y a pas de mystères qui ne nous seront pas accessibles, qu'on ne pourra pas dévoiler. » Des personnages comme Voltaire, Rousseau, John Locke, David Hume, Immanuel Kant ont été des philosophes qui ont cherché à remettre en question les éléments surnaturels du christianisme, mais ce qu'ils ont cherché à faire au début, ça a été comme de bonifier le christianisme, comme si on pouvait le faire. Puis éventuellement à le remplacer. Et c'est les philosophies de ces gens-là qui arrivent à un aboutissement avec ce qui se développe avec la Révolution française. Pour faire un parallèle avec les États-Unis, d'accord? Pour faire un contraste avec les États-Unis, admettons, ou avec l'Angleterre puis le Canada, c'est même déjà différent. Mais avec les États-Unis, vous aviez en réalité plusieurs des fondateurs, là, ceux qui ont signé la charte, la Constitution américaine, plusieurs d'entre eux croyaient dans l'existence d'un être suprême, un petit peu comme Herman disait. Puis l'espèce de mythe là, que les États-Unis, c'est une nation qui a été fondée sur la Bible, puis c'est une nation chrétienne, c'est un mythe, honnêtement, c'est un mythe. La majorité des signataires de la Constitution américaine ne croyaient pas dans la divinité de Christ, remettaient en question l'inspiration des Écritures, mais ils croyaient en un être suprême, ils croyaient que l'être humain était faillible, était porté vers le mal, qu'on avait besoin de la providence de cet être suprême-là, et un des signataires était clairement chrétien, d'accord? Si je me souviens bien, c'est Samuel Davies. Maintenant, il y a quand même une différence majeure, d'accord? La France déclare, on n'a pas besoin de Dieu, la raison humaine va nous mener au succès, va nous apporter toutes les solutions aux maux de ce monde. Aux États-Unis, c'est pas la même vision exactement. On a besoin de la providence divine. On a besoin que la bonne grâce de Dieu soit sur nous. On a besoin qu'il veille sur nous. L'être humain est faillible. L'être humain est pécheur. L'être humain a un cœur qui tend vers le mal. C'est très différent de Jean-Jacques Rousseau, hein, qui disait que l'être humain naît fondamentalement bon. C'est la société éventuellement qui va le corrompre. Alors, vous avez déjà deux visions du monde différentes. Mais même aux États-Unis, cette idée que les Écritures ne sont plus l'autorité principale, c'était ça l'idée des pères fondateurs des États-Unis pour la grande majorité d'entre eux. Et donc, le monde est déjà en train de changer très rapidement. Certains historiens disent que la Révolution française est la fin du christianisme comme religion populaire dans le monde. D'accord? Pour vous donner un moment dans l'histoire de l'Église où les choses auraient changé, ce serait vraiment la fin, parce que vous avez un État majeur, un des États les plus importants dans le monde, les plus puissants dans le monde, qui prend cette position-là. À la fin du 18e siècle, certains érudits ont commencé à douter ensuite de ça de l'autorité des Écritures. Plus précisément, remettre en question la fiabilité des Écritures. Et ça va aboutir au 19e siècle avec ce qu'on a appelé la haute critique. La haute critique, ce qu'elle a fait, je vais le résumer là, grossièrement, d'accord? Mais il y a deux éléments. La haute critique dit, par exemple, la Genèse n'a pas été écrite probablement par un seul auteur. Probablement qu'il y a plusieurs auteurs qui ont contribué à ça. Puis ça, il y a eu un éditeur éventuel qui a remis tout ça ensemble pour que ça se tienne. D'accord? Alors, pour les défenseurs de la haute critique, ils vont dire, ben, on doit étudier ce livre-là non pas comme il dit qu'il est, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière, ce que l'éditeur nous a caché. Et donc, il y a eu plusieurs éditeurs qui ont regroupé, par exemple, les psaumes. Et dans le cas des psaumes, c'est clair qu'il y a eu un travail pour les mettre ensemble, ces psaumes-là. Mais ils vont voir un travail d'édition, même dans des livres historiques. Et donc, ils vont dire, plus tard, il y a quelqu'un qui a fait ça. Par exemple, la haute critique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre des prophéties chez les grands prophètes qui sont clairement, les prophètes annonçaient des choses qui allaient venir plus tard, par exemple avec l'Exode, le retour de l'Exode de Babylone. Et eux autres vont dire, non, ces prophéties-là ont été écrites après l'Exode, après le retour d'exil. Et donc, ça a été ajouté après pour pouvoir voir une puissance prophétique dans tout ça. D'accord? Ça, c'est le développement de la haute critique. Premier aspect. L'autre aspect, c'est remettre en question tout ce qui est surnaturel. Et donc, la notion du miraculeux, pour eux, n'était pas admissible. Ce n'était pas quelque chose qu'on peut accueillir rationnellement, accepter rationnellement. Et donc, progressivement, ils vont en venir à enlever ou à retirer, ne pas reconnaître tous les éléments surnaturels que vous avez dans la Bible. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous en enlevez beaucoup. D'accord? Il ne vous reste plus exactement le même Jésus que le mien si vous enlevez tout ça. Oui, Yves. Oui, c'est ça. Ça, c'est la haute critique. Je suis un petit peu plus fort. Oui. Ouais, alors la manière que la haute critique travaille, là, c'est qu'ils disent, ils vont étudier le vocabulaire. Alors, ils vont dire, mettons qu'on prend Isaïe, ils vont prendre les premiers chapitres d'Isaïe, ils vont dire, c'est quoi son style littéraire, c'est quoi son vocabulaire, qu'est-ce qu'on voit constamment. Puis là, ils vont voir un petit peu plus loin, hop, il y a quelques nouveaux mots qui sont rajoutés dans son langage. Son style semble, sa manière de voir Dieu, il y a des éléments nouveaux qui sont là. Donc, probablement que c'est deux auteurs ici, on a deux auteurs, d'accord? Et ça, c'est l'approche qu'il va faire. Maintenant, hier, j'étais en train d'écouter un petit reportage sur Picasso. Je pense que c'est 50 000 tableaux qu'il a fait. D'accord? Fait que si on a cette approche-là avec Picasso, mettons là, que ça n'aurait pas été un de nos contemporains. On n'aurait pas pu le filmer. On aurait trouvé ça des siècles plus tard. C'est clair. Je veux dire, Picasso a fait tous les genres. Vous pensez qu'il a juste fait du lait et de l'affreux, là? C'est faux. Allez chercher un bouquin, là, sur Picasso, là. Il maîtrisait les styles de la Renaissance avec des tableaux très réalistes, là, d'une manière extraordinaire. La nourrice de Picasso, c'est sublime. Mais je veux dire, vous regardez son cubisme, là. ces espèces de bébites, puis la nourrice de Picasso. Puis si on arrive quelques siècles plus tard, c'est clair, c'est deux peintres différents. C'est évident, c'est pas le même peintre, d'accord? Alors, on a un peintre dans une vie seulement à travers ça. Alors, mais c'est le genre d'approche qu'ils ont pris avec la haute critique, où ils sont allés vendre des textes. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour réfuter ces approches-là. Du bon travail qui a été fait. C'est des sujets qu'on étudie lorsqu'on va faire le bac ou la maîtrise en théologie plus profondément. Oui, Herman. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui et non, je suis un peu d'accord avec toi, là, dans le sens que toutes ces théories-là, dans les milieux intellectuels très élevés, ont été remises en question en profondeur. Et c'est sûr que le développement de l'archéologie est venu confirmer à plusieurs reprises des faits affirmés par la Bible. Et donc, ça a redonné de la crédibilité aux Écritures et ça a remis en question l'approche de la haute critique. Le hic, c'est que quand... La manière que ça fonctionne, la diffusion de l'information, c'est que vous avez un chercheur qui est dans sa chaire de recherche, qui a besoin de financement, puis qui a besoin d'avoir une cause de recherche. Je m'excuse d'être cynique comme ça. Mais donc, lui, il commence à faire une recherche. Puis là, il fait des recherches sur Ésaïe, plusieurs auteurs, tout ça. Bon, OK. Puis là, il étaye sa thèse, il défend sa thèse, tout ça. Il publie un premier article dans des revues de recherche. Il regarde c'est quoi l'écho, un bon écho. Oui, OK, on pousse ça, on va publier un livre. Vous avez une courroie de transmission, d'accord? Entre le moment où lui commence à faire ça, puis cette idée que lui va affirmer va être généralisée dans la société, vous allez avoir 40, 50 ans de distance. 30, 40 ans, probablement un petit peu moins aujourd'hui avec la diffusion de l'information, mais encore là, c'est très lent parce que c'est de l'information qui est inaccessible, c'est de l'information qu'on lit pas. Et où je veux en venir avec ça, c'est que oui, dans certains milieux, ils remettent ça en question, c'est vrai, mais quand vous parlez avec le commun des mortels, dans la rue, ces gens-là, eux autres, sont encore là. La pensée de la haute critique a fait son chemin sur 50, 60 ans, et eux autres sont restés là. C'est un livre qui a été écrit par des hommes, qui a été recopié, blablabla. Ils n'ont aucune information, ils disent absolument n'importe quoi, d'accord? Ils ont juste pris comme l'air du temps, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que l'air du temps dit. C'est que c'est un livre qui a été écrit par plein d'auteurs. Ben oui, c'est sûr, il y a 66 livres. On est d'accord pour ça. Non, mais ça a été copié par plein de copistes, puis on n'a pas accès à rien. Non, mais regarde, on a beaucoup de manuscrits. Ils n'ont pas ces informations-là. Alors, excusez-moi de le dire comme ça, mais que les ravages qui commencent à se faire des fois dans les hautes sphères intellectuelles et qui se rendent au peuple, avant qu'on puisse contrer ça, c'est souvent 50 ans que ça va prendre. Oui, brièvement, Yves, il faut que j'avance. C'est ça. Lorsqu'on va dire, admettons, là, que pendant un bout de temps, sur tel ou tel texte de l'Ancien Testament, on a juste une copie de manuscrit qui date du 8e siècle après Jésus-Christ. Ben là, tu dis, c'est loin. Mais là, oups, à un moment donné, les archéologues trouvent quelque chose qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Puis c'est le même texte. En somme, c'est le même texte. Ouf, OK, là, ça donne toute une crédibilité à la capacité de transmettre les copies à travers les siècles. Je dois avancer. Alors évidemment, dans cette période-là, on a aussi d'autres éléments dans la société qui vont venir, d'autres pensées. On pense évidemment au niveau des sciences avec Charles Darwin. Darwin, avec l'origine des espèces, va remettre en question l'idée qu'il y a eu un Dieu qui a dirigé vraiment toute la création, qui soit l'auteur de toute la création même. Et donc ça va avoir un impact progressivement. Effectivement, je pense que la théorie de l'évolution est venu avoir un impact après ça sur notre vision même de la rédaction des Écritures. On va voir, ils vont chercher dans l'Ancien Testament une évolution de la conception de Dieu, comment on voit Dieu. Par exemple, lorsque dans Genèse, au départ dans la Genèse, Dieu parle au pluriel. Ils vont dire, ah ok, c'est parce que c'était une vision polythéiste, le Dieu monothéiste, le seul Dieu n'est pas apparu encore. On le voit apparaître plus tard dans la Genèse, mais... Bon, fait qu'ils vont arriver avec des théories comme ça où il y aurait eu une évolution de la vision de Dieu. Il y a toute la période de la Révolution industrielle dans cette même période-là. OK, je m'excuse, je dois juste mentionner aussi Karl Marx. Alors, Karl Marx, lui, voyait vraiment... C'est quoi le slogan de Karl Marx? Comment est-ce qu'il définissait la religion? La religion, c'est l'opium du peuple, d'accord? Alors, lui, Karl Marx, voyait pas ça comme quelque chose de faux, il voyait ça comme quelque chose de machiavélique. Les dirigeants, les classes dirigeantes avaient inventé le christianisme pour pouvoir contrôler le peuple et se servaient de la religion pour pouvoir contrer le peuple. Alors pour lui, il ne voyait pas l'univers, le monde comme ça. Il voyait le monde comme des cycles économiques et on traverse des cycles. Et l'histoire de l'humanité se résume à des cycles économiques où il y a de la croissance puis après ça, il y a des chutes. Et il voyait vraiment le christianisme et l'ensemble des religions comme des fictions qui servaient à contrôler, à pacifier les classes ouvrières. Et donc, il s'est opposé fermement à ça. On a la période de la Révolution industrielle. La période de la Révolution industrielle va apporter beaucoup au niveau des communications, au niveau des déplacements. En même temps, elle va augmenter énormément la pauvreté et l'oppression dans les milieux plus urbains. D'accord? Comment est-ce que l'Église va répondre à ça? Alors, d'une part, l'Église a répondu pauvrement, puis d'autre part, l'Église a répondu fermement. Et c'est toujours comme ça, d'accord? Il y a des théologiens qui ont voulu comme s'adapter au courant de pensée qui émergeait. Alors, on pense à quelqu'un comme Schleiermacher. Bon, ben lui, il aborde les Écritures, puis il dit, oui, OK, on s'en vient dans un monde de plus en plus rationnel, de plus en plus scientifique. La Bible, c'est peut-être pas quelque chose de rationnellement acceptable. Et donc, il va remettre en question le fait qu'on peut vraiment défendre ce que la Bible affirme rationnellement. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, il faut arrêter de mettre un accent sur les faits historiques ou les événements historiques ou l'historicité de ce qui est affirmé dans la Bible pour se concentrer plutôt sur le message que Dieu veut nous apporter. Et c'est le message qui est plus important. Si vous allez à l'Université de Montréal, aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous enseigner dans la faculté de théologie. D'accord? McGill, c'est pire encore, c'est beaucoup plus écuménique. Mais si vous allez à l'Université de Montréal, c'est ce qu'on va vous enseigner à la faculté de théologie. C'est cette vision-là que... mais c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment... Et j'ai écouté Mgr Lépine lorsqu'il était à Tout le monde en parle. Puis, cette pensée-là n'était pas exclue. Je sais qu'il met un accent très fort sur Jésus, d'accord? Lui, il l'affirme. Mais lorsque Danny a voulu l'attaquer sur la question de l'homosexualité. Et puis, il y avait Martineau, je pense, qui était là aussi, qui le challengeait très, très fort là-dessus. Sa réponse a été, pour moi, ce qui est important, c'est l'être humain. Ce que je vois, premièrement, c'est l'être humain qui est devant moi. Et je veux entrer en relation avec cet être humain-là. Il est en train de déplacer la question de est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce qu'il y a un péché, objectif ou non, qu'on peut définir? Pour dire, non, mais ce qui est important, c'est la relation. Et c'est un peu cette pensée-là que Schleiermacher va apporter. Dieu est venu vers nous pour entrer en relation avec nous. Est-ce que c'est vraiment important que tout ce qu'il affirme historiquement soit valable? Je ne pense pas. Ce qui est le plus important, c'est le message. D'accord? Évidemment, je m'excuse, il faut que j'avance. Évidemment, lorsqu'on commence à remettre en question l'historicité des événements, bien la conclusion à moyen terme, c'est que le message, il repose sur quoi? À la limite, s'il n'y a pas un Jésus historique qui est né à telle date, qui est mort à telle date, qui est mort crucifié, qui est ressuscité véritablement, littéralement, pourquoi est-ce qu'il y en aurait un qui aurait dit ce que vous me dites qu'il a dit? Si les faits historiques sont faux, pourquoi est-ce que le message serait vrai? Alors, tu finis avec tout ça ou tu crois plus ou moins en n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est Schleiermacher et je ne suis pas en train de dire que ce qu'il voulait faire, c'était détruire le christianisme. Je suis en train de dire qu'il voulait s'adapter à son époque et il y a certaines pensées de son époque qui sont venues transformer sa théologie. D'accord? Et c'est encore très présent. Son influence a été énorme. Ensuite de ça, on va penser à le philosophe théologien danois Søren Kierkegaard. Kierkegaard est allé un peu plus loin, même s'il y a eu moins d'impact. Et lui, ce qu'il a cherché, c'est beaucoup plus l'expérience avec Dieu. Lui, ce qu'il a dit, en fin de compte, ce qui est important, c'est que Dieu vienne me rencontrer. C'est le moment où Dieu vient me rencontrer, c'est ça qui est important. Puis en fait, Søren Kierkegaard, si vous avez fait un peu de philosophie, c'est le père de l'existentialisme. Alors, vous avez un théologien philosophe qui disait croire en Christ comme son sauveur. C'est ce qu'il affirmait clairement. Il a écrit beaucoup de choses qui étaient très bonnes. Mais en même temps, cette idée que chaque individu a une raison Et cet individu-là a une volonté libre et il doit entrer en relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu va lui donner comme expérience personnelle qui compte. Et à ce moment-là, les Écritures deviennent vraiment secondaires. À la limite, ça se passe peut-être pas juste dans le christianisme, cette rencontre-là. D'accord? C'est un petit peu la pensée que vous allez avoir lorsque vous jasez avec des gens qui sont croyants dans un être suprême et qui disent « Oui, je vais vivre quelque chose avec lui. » Puis, je veux dire, ce Dieu-là, s'il est juste, il va donner une chance à tout le monde de le rencontrer. Il va se révéler à tout le monde et tout le monde peut le rencontrer par son propre parcours, par son propre chemin. D'accord? Pour que j'arrive à croire ça, il faut que je sois prêt à dire ben, ce que la Bible dit qui est historique, Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts, c'est probablement pas vrai. C'est probablement pas important, ça. Parce que si c'est important, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne le vient au Père que par moi. » Si ça, c'est vrai, mais cette approche où chacun peut prendre son chemin pour aller vers Dieu puis vivre une expérience avec Dieu, c'est faux. Il y en a un chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est le chemin pour tout le monde si on veut aller vers Dieu. D'accord? Ça, c'est Søren Kierkegaard. Alors, encore là, c'était... Lui, ce qu'il se disait, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une vérité objective qu'on va trouver dans les Écritures et qui est importante. C'est l'expérience que je vais vivre avec Dieu qui va être importante. D'accord? Maintenant, des fois, vous allez rencontrer des chrétiens qui vont avoir ce langage-là. Ça ne veut pas dire que l'influence vient de là. Ça peut venir d'ailleurs aussi. Là. Il y a différents courants de pensée qui amenaient cette pensée-là. Mais ça va avoir un impact sur... Quand vous vous demandez... mais qu'est-ce qui est arrivé avec les églises luthériennes? Qu'est-ce qui est arrivé avec les églises réformées? Qu'est-ce qui se passe? Mon frère arrive de Suisse, Hugo est allé en Suisse suivre un cours là-bas, puis il est allé à la cathédrale Saint-Pierre où Jean Calvin a prêché. C'est un bâtiment écuménique maintenant. Et donc, l'Évangile n'est plus prêché à cet endroit-là. Il est allé à l'église où William Farrell a prêché. L'Évangile n'est plus prêché à cet endroit-là. Mais ces mouvements-là ont fait un effort pour essayer de s'adapter puis intégrer. Ils ont dit, bien... Ce que la science dit, c'est vrai, et donc il faut lire les Écritures autrement. Il faut apprendre à lire les Écritures autrement, puis peut-être admettre que les Écritures erraient. Les gens qui les ont écrits à une époque où ils avaient ça de connaissance, puis nous, aujourd'hui, on a ça de connaissance. Si nous, on avait écrit les Écritures, mais peut-être qu'il n'y aurait pas de miracle qui serait raconté dedans. Voyez-vous? C'est le genre de raisonnement que ces théologiens-là ont eu. Et ce que ça donne, c'est que ça donne des églises qui ne sont pas des églises. Ça donne des églises où les croyants, les participants ne sont pas des chrétiens. Personnellement, je suis en rapport avec un jeune homme qui est pasteur dans une église en Allemagne. Et puis, c'est la réalité que lui vit à chaque dimanche. Il nous partageait, là, lui est chrétien. Sa théologie est très, très solide. Puis, ils avaient une discussion avec le conseil d'église, d'accord? Il y a un pasteur associé avec lui, tout ça, puis... Ils ont eu une grosse discussion sur la compréhension du salut. Puis Mathias nous écrivait, puis il nous disait, « Les gars, priez pour moi, parce qu'il y a certains des prédicateurs dans cette église-là qui ont une vision tellement humaniste du salut, ils n'ont pas vraiment la compréhension de l'Évangile. » Mais lui, il s'est converti, puis Dieu lui a ouvert une porte, puis l'Assemblée répond bien à la prédication de la parole de Dieu. Fait qu'il évolue de semaine en semaine en travaillant avec une équipe où c'est peut-être même pas tous les pasteurs qui comprennent bien l'Évangile. Là. D'accord? C'est tout un contexte pour travailler. On parle d'une église luthérienne. D'accord? Alors, quand vous voyez tout ça, c'est sûr que c'est triste, mais l'Évangile se gagne une génération à la fois et se perd une génération à la fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on s'investit dans nos enfants au niveau de la foi ou on ne s'investit pas en eux. Si on ne s'investit pas en eux, prochaine génération, oubliez ça. Il va en avoir encore des chrétiens. Dieu va sauver. Ça ne sera pas une filiation de chrétiens. De père en fils, d'accord? Dieu va en chercher d'autres. Et c'est ce qu'il a fait, puis souvent ce que ça va faire, c'est que Dieu va fonder d'autres églises aussi. Parce que dans cette église-là, ben, les gens qui contrôlent l'église ne veulent pas avoir la parole de Dieu. Comme Mark Dever le dit à Together for the Gospel, une prédication de l'Évangile qui n'est pas claire produit des faux convertis, puis les faux convertis embauchent des faux docteurs. Puis après ça, le cycle est parti, d'accord? Par contre, dans cette période-là, à cette même époque-là, on parle du 18e siècle, du 19e siècle, on a des gens qui ont défendu la vérité. On pense à John Witherspoon, qui a été le président de l'université Princeton. Ça, c'est au 18e siècle. Au 19e siècle, Archibald Alexander et Charles Hodge. Charles Hodge, on peut trouver plusieurs de ses ouvrages, certains traduits en français aussi. Voici comment Charles Hodge, au 19e siècle, résumait le conflit qu'il y a entre les deux manières de penser. Il disait, depuis le début de l'histoire de l'Église, il y a deux visions du monde qui s'opposent. Il y a une vision du monde qui commence avec Dieu, Dieu souverain, Dieu régnant, Dieu qui accomplit ses desseins, et une autre vision du monde qui commence avec l'homme. L'homme qui est un être intelligent et pensant, et donc qui devrait pouvoir contrôler sa destinée. La vision où c'est Dieu qui est en haut, bien, souligne la souveraineté de Dieu et la nécessité de l'intervention de Dieu pour sauver les hommes. La vision qui dit non, c'est l'homme qui est souverain grâce à son intelligence, va mettre un accent sur les droits de l'homme. Puisqu'il est intelligent, il peut choisir et a donc des droits. Je peux choisir ce qu'on doit me faire, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et j'ai des droits en conséquence puisque j'ai la capacité de choisir. Celui qui reconnaît Dieu comme étant au contrôle de l'univers va accepter l'idée qu'il y a beaucoup de mystères. Si Dieu est là, c'est un être tout-puissant, infini, qui ne nous a pas fait tout connaître, et donc il y a des choses qui demeureront toujours de l'ordre des mystères pour l'être humain. On essaie de comprendre cet univers-là. Dieu nous a révélé ce qui était nécessaire pour notre foi. Dans le cas de celui qui voit l'homme comme étant au-dessus de toute chose, il dit non, l'homme a la raison, l'homme est rationnel, et donc grâce à la raison, on devrait réussir à dénouer tous les mystères. On devrait accéder à tous les mystères. Et voyez-vous que celui qui croit en Dieu va dire non, il y a un moment où tu ne vas pas percer le mystère de Dieu. Tu es un être humain, tu ne pourras pas saisir Dieu dans toute sa grandeur et sa profondeur. Et évidemment, celui qui croit que Dieu est celui qui domine sur toute chose va conclure que la destinée de l'être humain est entre les mains de Dieu. Celui qui croit que c'est l'homme qui est au-dessus de toute chose estime que sa destinée est entre ses mains. Et donc, c'est une approche fondamentalement différente. Si je crois en Dieu, j'ouvre les Écritures. Si je crois profondément en Dieu comme un être souverain, je reconnais que la Bible est inspirée de Dieu, j'ouvre les Écritures. Et quand j'arrive devant des mystères, avec humilité, je dis, Seigneur, tu me feras comprendre ces choses-là en ton temps. Je lis les Écritures avec humilité, en disant, tu l'as écrit, c'est pour que je te connaisse, mais tu me feras comprendre ces choses-là en ton temps. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans les Écritures. Pierre le dit en parlant des Écrits de Paul. J'aborde les Écritures avec humilité. Celui qui a une vision, là, je veux juste faire un petit parallèle pour vous montrer comment des fois cette pensée du monde peut aussi faire partie de notre vision même des Écritures. Celui qui a une approche très, très rationnelle et qui dit non, moi je n'accepte que ce que ma raison me dit qui est juste, me dit qui est vrai. Mais il y a plein de choses dans les Écritures où tu arrives et tu dis, faut que j'accepte ça, Seigneur. Mais pour moi, c'est pas cohérent. Fait que non. Quand tu t'expliqueras mieux à ma raison, j'obtempérerai, je te suivrai. D'accord? Je pense que tous les enfants sont comme ça à un moment ou un autre. Ils voudraient nous dire ça. 10 minutes. On va parler très brièvement des grands réveils, du deuxième grand réveil, et puis on va parler du mouvement missionnaire. Parce que un est le départ de l'autre. Alors, comme je le mentionnais, en même temps que sur la place publique, le christianisme semble être en recul profond, okay? Puis je dirais même qu'il l'est sur la place publique, en même temps, il y a des mouvements de fond qui sont là et qui sont en train de produire un peu partout des églises et implanter des églises. Et un mouvement qui va être utilisé puissamment à travers le 18e siècle, c'est cette deuxième période de grand réveil. On a vu les premiers réveils la semaine dernière avec Jonathan Edwards et les gars qui étaient autour de lui. Maintenant, on parle du 18e siècle. Donc, à partir de 1795 environ, ça va commencer à se préparer. En 1795, l'Église aux États-Unis est assez moribonde, d'accord? Un personnage super important va intervenir, il s'appelle Timothy Dwight. Timothy Dwight, c'est le petit-fils de Jonathan Edwards, d'accord? Et c'était le président de l'Université Yale. Lorsqu'il est arrivé à l'université, il a constaté que la pensée des Lumières, la pensée de la raison avait fait énormément de petits, avait façonné beaucoup la pensée des gens. Et il a commencé à observer les étudiants, puis il a dit, il n'y a à peu près pas de chrétiens ici. Il y avait des étudiants en théologie, mais il a dit, il y a à peu près pas de chrétiens ici. Et à ce moment-là, il a pris la décision, là on parle de 1795, à ce moment-là, il a pris la décision de commencer à enseigner systématiquement sur un cycle de 4 ans les grandes doctrines. Et donc, tout le monde devait venir à la chapelle, il a commencé à enseigner les grandes doctrines avec les Écritures. Ce qui est plus touchant encore qu'il a fait, c'est qu'il a décidé à ce moment-là qu'il allait prendre un temps avec chacun des étudiants. Et donc, dès qu'il y avait des moments qui lui permettaient de le faire, il allait dans les dortoirs, puis il allait chambre par chambre prendre un temps de discussion avec les étudiants dans leur chambre pour leur annoncer l'Évangile, pour leur prêcher l'Évangile. Il va travailler pendant 7 ans comme ça avant de commencer à voir des résultats significatifs. D'accord? Au début, là, c'était super décourageant. Les jeunes résistaient, ne recevaient pas l'Évangile. Pendant 7 ans, il va prêcher systématiquement à la chapelle. Et il va enseigner les grandes doctrines à partir des Écritures. Et il va aller visiter de dortoir, de chambre en chambre les étudiants pour leur prêcher l'Évangile et discuter avec eux du christianisme. Du travail de cet homme-là, le deuxième grand réveil va commencer. Ça va être un mouvement absolument extraordinaire. Lorsqu'on arrive en 1802... il a pu dénombrer environ 225 étudiants à l'Université Yale, soit un tiers de la population étudiante qui était maintenant chrétienne clairement, qui s'était convertie. Et donc, c'est extraordinaire comme impact. Là. Vous êtes dans une université, vous avez un tiers de l'université finalement qui s'est converti. Et de ce travail-là, le mouvement des grands réveils va commencer parce que les jeunes qui se sont convertis là vont sortir de là, ils vont devenir des prédicateurs de l'Évangile et ça va se répandre un peu partout aux États-Unis. Le mouvement avait commencé aussi en parallèle, c'est en train de se répandre progressivement. À un certain moment donné, au 19e siècle, il va y avoir jusqu'à un rassemblement, il faisait des camps, il faisait des camps de prédication. Les gens venaient, ils campaient pendant quelques jours, et à un moment donné, il y a un camp qui avait 25 000 personnes, d'accord? Il y avait plusieurs prédicateurs, puis ils prêchaient l'Évangile, prêchaient les Écritures constamment. Et donc, ce mouvement-là va se répandre énormément. J'essaie juste de retrouver quelques-uns des intervenants importants dans le mouvement. Une des choses que ça va produire aussi, c'est que la face de la foi aux États-Unis va changer. Il y avait beaucoup d'églises anglicanes auparavant. À la fin du deuxième grand réveil, ce sont surtout des églises presbytériennes, méthodistes et baptistes qu'il y a un peu partout aux États-Unis. En majorité, c'est ça qu'on trouve aux États-Unis. Et à cause des réveils, il y a eu beaucoup de collaboration entre eux. Ils organisaient des croisades. Nous autres, on appellerait ça des croisades d'évangélisation, mais c'était des camps où ils prêchaient l'Évangile, prêchaient la parole de Dieu, et ils organisaient ça ensemble. De ce mouvement-là va sortir le mouvement pour la mission. OK. Deux petites choses à mentionner. Dans le premier des grands réveils, c'était Jonathan Edwards qui a parti le mouvement, George Whitefield. Ces hommes-là avaient une théologie calviniste. Donc, ils avaient une vision de l'homme. L'homme est dépravé. L'homme ne peut pas par lui-même trouver Dieu. Il faut que Dieu l'attire à lui. Il faut que Dieu se révèle à lui. C'est Dieu qui donne la foi à l'homme. Une vision très réformée, la compréhension du salut. Ce qui nous est arrivé par Luther, par Calvin, par Zwingli, par ces hommes-là, d'accord? Lorsqu'on arrive au deuxième réveil, la théologie est un petit peu différente. L'accent va être mis davantage sur l'expérience que l'individu va vivre avec Dieu. L'expérience de la conversion. D'accord? Si vous vous rappelez, j'ai mentionné la semaine dernière, Jonathan Edwards, puis ces prédicateurs-là, parlaient sans aucune gêne de l'enfer. Et donc, il disait aux gens, préparez-vous, un jour vous présentez devant Dieu, Dieu va vous juger, il faut que vous soyez prêts à être jugés par Dieu. Et donc, il y avait un accent très fort là-dessus. Et les gens prenaient une décision personnelle sur la base de je veux marcher avec Dieu, puis je vais être prêt à rencontrer mon juge. À la limite, c'est une décision un peu rationnelle, d'accord? Dans le deuxième réveil, l'accent est beaucoup mis sur l'expérience de la conversion et l'expérience que les gens vont vivre de la conversion. Et les prédicateurs qui ont fait le plus avancer, on pense à Charles Finney, puis à Francis Asbury, mais Charles Finney, peut-être vous en avez entendu parler, était plus arminien dans sa théologie et donc il croyait que chaque individu doit prendre une décision uniquement personnelle, a une liberté de décision. Et donc, son approche va être différente. Il va chercher à interpeller l'émotion des personnes davantage pour qu'ils prennent cette décision-là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y avait des méthodes des fois un petit peu douteuses. Je vous donne juste un exemple. Il y avait un banc à l'avant Et j'oublie le nom, là, mais c'était comme le banc de l'anxiété. Là. Pardon? Non, c'est pas le banc des pénitents, non. C'est quand il prêchait l'Évangile. Puis les gens qui venaient là, c'est les gens qui avaient pris une décision puis qui voulaient qu'on les accompagne pour devenir chrétiens. Mais ça arrivait que Charles Finney faisait asseoir là des chrétiens. D'accord? Comme pour que le banc ne soit pas vide au départ. C'est malhonnête, comprenez? Mais dans sa vision à lui, il voulait toucher les émotions des gens. Et si je peux toucher les émotions des gens, ils vont avoir une décision qui va suivre ça. D'accord? C'est une vision différente. Celui qui croit dans la souveraineté de Dieu donne l'information. Il donne l'information avec passion. Je ne veux pas prêcher la croix comme si c'était une équation mathématique. C'est la passion du Christ. Je veux le prêcher avec passion, mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui conduit la personne à l'Évangile. Et donc, c'est un accent qui va être différent. Maintenant, Charles Finney n'a pas juste fait des erreurs. C'était un homme qui mettait un très, très gros accent sur le fait que la foi devait se traduire en action. Et donc, il va combattre beaucoup, il va faire beaucoup d'efforts pour l'abolitionnisme, pour combattre l'esclavage. Il va faire la promotion de la tempérance, c'est-à-dire de renoncer à consommer de l'alcool avec excès ou de consommer de l'alcool tout court. Prendre soin des pauvres, de ceux qui sont déficients intellectuels. Énormément de promotion de l'éducation. Et donc, à travers Charles Finney, il va avoir un impact social très, très puissant. D'accord? Certains historiens disent que Charles Finney, dans son époque, a eu plus d'impact sur les États-Unis que l'ensemble des politiciens des États-Unis. D'accord? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Je ne sais pas. Alors, quelques mots. Là, je m'en vais dans votre second dépliant et je vais sauter toute la section sur l'histoire des baptistes pour vous parler d'un seul baptiste, William Carey. Très brièvement. La deuxième période des réveils prépare le terrain pour la mission mondiale. Chercher à atteindre toutes les nations avec l'Évangile. Il y avait déjà eu quelques efforts, je l'ai mentionné tantôt, avec Jean Calvin. Jean Calvin avait envoyé quelques missionnaires. On a donné des exemples, j'ai mentionné que Jonathan Edwards, beaucoup plus tard, mais Jonathan Edwards au 17e siècle, Jonathan Edwards en fait on est au 18e siècle avec Edwards, par exemple, il a terminé son dernier ministère, ça a été de travailler pour une mission auprès des Amérindiens. Et donc, il y a eu quelques efforts à ce moment-là. Mais l'Église, tous ceux qui se disaient chrétiens, n'étaient pas engagés ensemble à atteindre toutes les nations de la terre avec l'Évangile. Ça va se produire fondamentalement au 19e et 20e siècle. Je vous mentionne juste deux, trois noms, là, parce que tout à l'heure, je regardais des noms à mentionner dont je n'ai pas le temps de couvrir. Lorsqu'on parle du 18e siècle, on parle de Charles Spurgeon, on parle de Hudson Taylor, fin du 18e, début du 19e, début du 20e. Lorsqu'on parle de George Muller, d'accord? C'est des gens qui ont vécu dans cette période-là. Maintenant, la période la deuxième période des grands réveils, on parle de la fin du 18e, 1795, et les quelques premières décennies du 19e siècle. Et ça, comme je le mentionnais, ça va donner la place, ça va ouvrir la porte pour pouvoir lancer un effort d'évangélisation mondiale à travers les missions. Je vais juste vous donner un exemple ce matin avec William Carey, parce qu'il est reconnu par les historiens comme le père de la mission moderne, d'accord? Alors, je vous donne un exemple avec lui seulement. William Carey, 1783. En 1783, il se fait baptiser un 5 octobre. C'est une belle date de fête, ça. Le 5 octobre, il s'est fait baptiser. Et le pasteur qui l'a baptisé, il a dit, il a juste marqué dans son journal, « Aujourd'hui, j'ai baptisé un pauvre petit cordonnier. » C'était William Carey. William Carey, très tôt après sa conversion, a eu sur son cœur d'atteindre les missions. Soit dit en passant, William Carey était post-mille. Intéressant, réformé post-millénariste. Et ça a mû beaucoup sa vision pour les missions. Alors, William Carey était cordonnier, il a eu une passion pour les missions. Alors, ce qu'il faisait, pendant quelques années, il s'est préparé. Pendant qu'il réparait ses chaussures, il s'était fait des feuilles, des grilles pour apprendre plusieurs langues et se documenter. Il ramassait tout ce qu'il pouvait avoir comme information On est à la fin du 18e siècle, là, d'accord? Il n'est pas sur le web en train de faire ses recherches, là. Il prend toutes les informations qu'il peut recevoir à travers les colonisations, les efforts de colonisation, tout ça, sur différents pays. Il va apprendre des langues indiennes, il va apprendre évidemment le français, l'allemand. Et donc, il apprend ça en faisant sa cordonnerie pendant quelques années pour se préparer à partir en mission. 1783, se fait baptiser. 1792, fonde avec quelques collègues, alors que maintenant il est pasteur baptiste. Il fonde la Société missionnaire baptiste, qui est la première société missionnaire grande, qui va envoyer beaucoup de missionnaires. Et il va partir rapidement pour les Indes. On parle de 1792. Ses conditions de vie sont terribles. Ils sont juste quelques pasteurs qui se sont regroupés. Alors, il manque d'argent. Ils doivent écrire, là, vous comprenez que le courrier outre-mer, c'était long dans ce temps-là, alors on commence à manquer d'argent, on écrit là-bas pour voir s'ils peuvent faire une collecte de fonds, envoyer des sous qu'ils vont faire par transfert bancaire, tout ça, pour qu'ils puissent avoir des sous pour pouvoir survivre. Donc les conditions de vie étaient très difficiles, la chaleur, la pauvreté, la maladie. Sa première épouse, ils vont perdre un enfant. Et sa première épouse va faire une dépression profonde, dépression majeure, et elle va être internée jusqu'à la fin de ses jours, 13 ans d'internement, parce qu'elle ne s'en remet pas du tout. William Carey va continuer avec d'autres à faire le travail au niveau de la mission tranquillement. Ça avance très, très lentement. Dans la biographie, il y a même des petits jeux. Il y a un collègue qui, à un moment donné, détournait des fonds. Il a fallu qu'il se sépare de lui. Ça a été vraiment difficile. Et pendant de nombreuses années, il a vu très, très peu de fruits. Au début, il ne savait pas comment entrer en contact. Évidemment, il n'était pas bien reçu. Après ça, il a décidé de développer comme approche d'arriver à un endroit et puis commencer à cultiver un jardin. Avec son jardin, commencer à importer un certain nombre de trucs pour pouvoir nourrir des gens dans le village. Et progressivement, les gens sont venus s'impliquer avec lui dans le travail de jardinage et il a pu commencer à traduire les Écritures dans la langue des peuples où il était. Et le travail d'évangélisation de William Carey va faire entrer les États-Unis dans le mouvement missionnaire. Et après ça, il va y avoir d'autres mouvements qui vont naître. La meilleure biographie que je peux vous conseiller de lire en français, c'est celle de Hudson Taylor. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu Hudson Taylor? Ici? Tu lis ça au début de ta vie chrétienne, c'est en ligne de vie chrétienne. Tu dis, OK, c'est ça un chrétien. Lisez pas la version abrégée. Lisez la version de 500 pages. J'ai mis ça entre les mains de ma fille hier. Et c'est ça. C'est ça la vie chrétienne lorsque tu as lu Hudson Taylor. Un des missionnaires les plus importants de cette époque-là, c'est David Livingstone. David Livingstone va faire beaucoup d'évangélisation en Afrique. Il va voyager énormément. Il va se déplacer beaucoup. Et je termine avec une toute petite histoire pour dire comment son ministère à lui a eu un impact à David Livingstone. En 1959, dans les îles Malawi, d'accord? Le ministère de David Livingstone était terminé depuis longtemps, mais les îles Malawi ont nommé une ville en son nom, Livingstonia. Okay? C'est en l'honneur de David Livingstone qui est allé évangéliser cette région-là. En 1959, il y a des combats pour l'indépendance à ce moment-là dans les îles Malawi. Et il y a des administrateurs britanniques qui envoient des avions survoler des régions pour leur dire « Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes trop envahis? Vous êtes en train de mourir sur place? » Tout ça. Et ce qu'ils leur avaient dit, ils avaient dit « Lorsqu'on va revenir, faites arranger des pierres sur le sol, soit en position du « i »,« je », si tout va bien, si vous êtes correct, mais si vous vous sentez en danger, faites-nous un « v » au lieu. » D'accord? Excusez-moi, c'est l'inverse. Lorsqu'ils sont revenus, lorsque l'avion a recirculé en 1959, ce qu'ils avaient écrit sur le sable, ils avaient placé des pierres, ils avaient juste mis la référence Éphésiens 2,14. Car il est notre paix, celui qui nous a créés comme un seul peuple et qui a brisé les murs de séparation entre nos peuples. Et c'est ça qu'ils avaient écrit sur le sable. Simplement pour dire que l'Évangile avait continué à se répandre dans cette région-là. On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, il y a tellement à dire sur l'histoire de l'Église. Il y a tellement de moments merveilleux où tu as touché des cœurs, tu as levé des hommes et des femmes qui ont fait des choses puissantes, Seigneur, au nom de l'Évangile, qui, qui ont conduit des milliers de personnes dans certains cas. Je pense à l'œuvre de George Muller, je pense à Hudson Taylor, Seigneur, qui m'ont tellement touché, Charles Spurgeon. C'est des vies, Seigneur, qui m'ont parlé, David Brainerd auprès des Amérindiens. Je te prie, Père, de faire grandir notre connaissance de l'histoire de l'Église. Je te prie, Seigneur, de susciter dans le cœur de quelques-uns, de pousser leur lecture, de pouvoir voir à quel point notre foi est millénaire, non seulement par les Écritures, mais aussi dans l'histoire de l'Église, et qu'on puisse être édifié par ces choses. Merci, Seigneur Jésus, pour ta souveraineté. C'est toi qui veilles. C'est toi qui bâtis ton Église. Et s'il y a une chose que l'histoire de l'Église nous enseigne très clairement, c'est que tu es fidèle malgré toutes les attaques, malgré toutes les vagues. Tu préserves ton Évangile, Seigneur, et ton Évangile se répand actuellement à travers les missions mondiales comme il ne s'est jamais répandu dans toute l'histoire de l'humanité. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.